Chapitre 10. Le mouvement d'Alicia pour cacher son mouchoir n'avait pu être si prompt que M. d'Apprenon l'aperçut. Une pâleur affreuse couvrit les traits de Paul, car une preuve irrécusable de son fatal pouvoir venait de lui être donnée, et les idées les plus sinistres lui traversaient la cervelle. La pensée du suicide se présenta même à lui. N'était-il pas de son devoir de se sublimer comme un être malfaisant et d'anéantir ainsi la cause involontaire de tant de malheurs? Il eût accepté pour son compte les épreuves les plus dures et porté courageusement le poids de la vie, mais donner la mort à ce qu'il aimait le mieux au monde, n'était-ce pas aussi par trop horrible? L'héroïque jeune fille avait dominé la sensation de douleur suite du regard de Paul, et qui coïncidait si étrangement avec les avis du comte Altavilla. Un esprit moins ferme eût pu se frapper de ce résultat, sinon surnaturel, du moins difficilement explicable. Mais nous l'avons dit, l'âme d'Alicia était religieuse et non superstitieuse. Sa foi, inébranlable en ce qu'il faut croire, rejetait comme des contes de nourrice toutes ces histoires d'influences mystérieuses, et se riait des préjugés populaires les plus profondément enracinés. D'ailleurs, eût-elle admis la jetature comme réelle, en eût-elle reconnu chez Paul les signes évidents, son cœur tendre et fier n'aurait pas hésité une seconde. Paul n'avait commis aucune action où la susceptibilité la plus délicate pût trouver à reprendre. Et Miss Ward eût préféré tomber morte sous ce regard prétendu si funeste à reculer devant un amour accepté pour elle avec le consentement de son oncle et que devait couronner bientôt le mariage. Miss Alicia Ward ressemblait un peu à ces héroïnes de Shakespeare, chastement hardies, virginalement résolues, dont l'amour subi n'en est pas moins pur et fidèle et qu'une seule minute lie pour toujours. Sa main avait pressé celle de Paul, et nul homme au monde ne devait plus l'enfermer dans ses doigts. Elle regardait sa vie comme enchaînée, et sa pudeur se fut révoltée à l'idée seule d'un autre hymen. Elle montra donc une gaieté réelle ou si bien jouée qu'elle eût trompé l'observateur le plus fin, et relevant Paul, toujours à genoux à ses pieds, elle le promena à travers les allées obstruées de fleurs et de plantes de son jardin inculte, jusqu'à une place où la végétation, en s'écartant, laissait apercevoir la mer comme un rêve bleu d'infini. Cette sérénité lumineuse dispersa les pensées sombres de Paul. Alicia s'appuyait sur le bras du jeune homme avec un abandon confiant, comme si déjà elle eût été sa femme. Par cette pure et muette caresse, insignifiante de la part de tout autre, décisive de la sienne, elle se donnait à lui plus formellement encore, le rassurant contre cette erreur et lui faisant comprendre combien peu la touchaient les dangers dont on la menaçait. Quoiqu'il eût imposé silence d'abord à Vichy, ensuite à son oncle, et que le comte Altavilla n'eût nommé personne, tout en recommandant de se préserver d'une influence mauvaise, elle avait vite compris qu'il s'agissait de Paul d'Apremont. Les obscurs discours du beau napolitain ne pouvaient faire allusion qu'au jeune Français. Elle avait vu aussi que Paul, cédant aux préjugés si répandus à Naples, qui fait un jettatore de tout homme d'une physionomie un peu singulière, se croyait, par une inconcevable faiblesse d'esprit, atteint du fascino, et détournait d'elle ses yeux pleins d'amour, de peur de lui nuire par un regard. Et pour combattre ce commencement d'idées fixes, elle avait provoqué la scène que nous venons de décrire, et dont le résultat contrariait l'intention, car il ancra Paul plus que jamais dans sa fatale monomanie. Les deux amants regagnèrent la terrasse, où le commodore, continuant à subir l'effet de la musique, dormait encore mélodieusement sur son fauteuil de bambou. Paul prit congé et Miss Ward, parodiant le geste d'adieu napolitain, lui envoya du bout des doigts l'imperceptible baiser en disant « À demain, pas demain, Paul, n'est-ce pas ?» d'une voix toute chargée de suaves caresses. Alicia était en ce moment d'une beauté radieuse, alarmante, presque surnaturelle, qui frappa son oncle réveillé en sursaut par la sortie de Paul. Le blanc de ses yeux prenait des tons d'argent bruni et faisait étinceler les prunelles comme des étoiles d'un noir lumineux. Ses joues se nuançaient aux pommettes d'un rose idéal, d'une pureté et d'une ardeur céleste qu'aucun peintre ne posséda jamais sur sa palette. Ses tempes d'une transparence d'agane venaient d'un réseau de petits filets bleus et toute sa chair semblait pénétrée de rayons. On eût dit que l'âme lui venait à la peau. « Comme vous êtes belle aujourd'hui, Alicia !» dit le commodore. « Vous me gâtez, mon oncle, et si je ne suis pas la plus orgueilleuse petite fille des trois royaumes, ce n'est pas votre faute. Heureusement, je ne crois pas aux flatteries, même désintéressées. « Belle, dangereusement belle !» continua en lui-même le commodore. « Ben, me rappelle très pour très sa mère, la pauvre Nancy, qui mourut à 19 ans. De tels anges ne peuvent rester sur terre. Il semble qu'un souffle les soulève et que les ailes invisibles palpitent à leurs épaules. C'est trop blanc, trop rose, trop pur, trop parfait. Il manque à ces corps éthérés le sang rouge et grossier de la vie. Dieu, qui les prête au monde pour quelques jours, se hâte de les reprendre. Cet éclat suprême m'attriste comme un adieu. Eh bien, mon oncle, puisque je suis si jolie, reprit Miss Ward, qui voyait le front du commodore s'assombrir. C'est le moment de me marier. Le voile et la couronne m'iront bien. Vous mariez, êtes-vous donc si pressé de quitter de votre vieux peau rouge d'oncle, Alicia? Ah, mais je ne vous quitterai pas pour cela. N'est-il pas convenu avec M. d'Apremont que nous demeurons ensemble? Vous savez bien que je ne puis vivre sans vous. Monsieur d'Apremont, Monsieur d'Apremont, la noce n'est pas encore faite. Mais n'a-t-il pas votre parole et la mienne? Sir Joshua Ward n'y a jamais manqué. Il a ma parole, c'est incontestable, répondit le commodore, évidemment embarrassé. Et le terme de 6 mois que vous avez fixé n'a-t-il pas écoulé depuis quelques jours? Dit Alicia, dont les joues pudiques rosirent encore davantage, car cet entretien nécessaire au point où en étaient les choses effarouchait sa délicatesse de sensitive. Ah, t'as compté les bras, petite fille! Fiez-vous donc à ces mines discrètes! « J'aime M. d'Apremont, » répondit gravement la jeune fille. « Voilà l'enclure !» fit Sir Joshua Rossward, qui, tout imbu des idées de Vichy et d'Altavia, se souciait médiocrement d'avoir pour gendre un jettatore. « Que n'en aimes-tu un autre ?»« Je n'ai pas de cœur, » dit Alicia. « Je n'aurai qu'un amour, dussé-je comme ma mère, » mourir à 19 ans. Mourir, dit penseux de ces vilains mots-là. Vous en supplie, s'écria le commodore. Avez-vous quelques reproches à faire à M. d'Apremont? Aucun, assurément. A-t-il forfait à l'honneur de quelque manière que ce soit? S'est-il montré une fois lâche, vil, menteur ou perfide? Jamais a-t-il insulté une femme ou reculé devant un homme? Son blason est-il terni de quelque souillure secrète? Une jeune fille, en prenant son bras pour paraître dans le monde, a-t-elle rougi ou abaissé les yeux? Monsieur Laprevaux est un parfait gentleman. Il n'y a rien à dire sur sa respectabilité. Mais croyez, mon oncle, que si un tel motif existait, je renoncerais à Monsieur Lapremont sur l'heure et m'ensevelirais dans quelque retraite inaccessible. Mais nulle autre raison, entendez-vous, nulle autre raison ne me fera manquer à une promesse sacrée, dit Miss Aliyah Howard d'un ton ferme et doux. Le commodore tournait ses pouces, mouvement habituel chez lui lorsqu'il ne savait que répondre et qui lui servait de contenance. Mais pourquoi montrez-vous maintenant tant de froideur à Paul? Continua Miss Ward. Autrefois, vous aviez tant d'affection pour lui. Vous ne pouviez vous en passer dans votre cottage du Lincolnshire, et vous disiez, en lui serrant la main, à lui couper les doigts, que c'était un digne garçon à qui vous confieriez volontiers le bonheur d'une jeune fille. Oui, certes, je l'aimais, ce bon Paul, dit le commodore. Qu'émouvaient ces souvenirs par rapport à propos. Mais ce qui est obscur dans les brouillards de l'Angleterre devient clair au soleil de Naples. Que voulez-vous dire? Fit d'une voix tremblante Alicia, abandonnée subitement par ses vives couleurs et devenue blanche comme une statue d'albâtre sur un tombeau. Mais que ton Paul est un jettatore! Comment, vous, mon oncle, vous, Sir Joshua Ward, un gentilhomme, un chrétien, un sujet de Sa Majesté britannique, un ancien officier de la marine anglaise, un être éclairé et civilisé que l'on consulterait sur toutes choses, vous qui avez l'instruction et la sagesse, qui lisez chaque soir la Bible et l'Évangile, vous ne craignez pas d'accuser Paul de jettature? Oh, je n'attendais pas cela de vous. Ma chère Alicia, répondit le commodore, je suis peut-être tout ce que vous dites lorsqu'il ne s'agit pas de vous, mais lorsqu'un danger, même imaginaire, vous menace, je deviens plus superstitieux qu'un paysan des Abruzzes, qu'un Lanzarone de Mole, qu'un Ostricajo de Chioggia, qu'une servante de la terre de labour ou même qu'un comte napolitain. Paul peut bien me dévisager tant qu'il voudra, avec ses yeux dont le rayon visuel se croise. Je resterai aussi calme que devant la pointe d'une épée ou le canon d'un pistolet. Le facino ne mordra pas sur ma peau tannée, hâlée et rougie par tous les soleils de l'hiver. Je suis crédule que pour vous, chère nièce, et j'avoue que je sens une sueur froide me baigner les tempes quand le regard de ce malheureux garçon se pose sur vous. Il n'a pas d'intention mauvaise, je le sais. Et il vous aime plus que sa vie. Mais il me semble que sous cette influence, vos traits s'altèrent, vos couleurs disparaissent, et que vous tâchez de dissimuler une souffrance aiguë. Et alors il me prend de furieuses envies de lui crever les yeux à votre Paul d'Apremont, avec la pointe des cornes donnée par Altavilla. Pauvre cher oncle, dit Alicia, attendrie par la chaleureuse explosion du commandeur. Nos existences sont dans les mains de Dieu. Il ne meurt pas un prince sur son lit de parade, ni un passereau des toits sous sa tuile, que son heure ne soit marquée là-haut. Le facino n'y fait rien. C'est une impiété de croire qu'un regard plus ou moins oblique puisse avoir une influence. Voyons, mon oncle, continua-t-elle en prenant le terme d'affection particulière du fou dans le roi Lear. Vous ne parliez pas sérieusement tout à l'heure. Votre affection pour moi troublait votre jugement toujours si droit. N'est-ce pas, vous n'oseriez pas lui dire, à Monsieur Paul d'Apremont, que vous lui retirez la main de votre nièce, mise par vous dans la sienne, et que vous n'en voulez plus pour gendre sous le beau prétexte qu'il est jettatore. Par Joshua, mon patron, qui arrêta le soleil, s'écria le commodore, je ne le mâcherai pas à ce joli monsieur Paul. Cela m'est bien égal d'être ridicule, absurde, déloyal même, quand il y va de votre santé, de votre vie, peut-être. J'étais engagé avec un homme et non avec un facilitateur. J'ai promis, eh bien, je fausse ma promesse, voilà tout. S'il n'est pas content, je lui rendrai raison. » Et le commodore, exaspéré, fit le geste de se fendre sans faire la moindre attention à la goutte qui lui mordait les doigts du pied. « Sir Joshua Ward, vous ne ferez pas cela, » dit Alicia avec une dignité calme. Le commodore se laissa tomber tout essoufflé dans son fauteuil de bambou et garda le silence. « Eh bien, mon oncle, quand même cette accusation odieuse et stupide serait vraie, faudra-t-il pour cela repousser M. d'Apremont et lui faire un crime d'un malheur? N'avez-vous pas reconnu que le mal qu'il pouvait produire ne dépendait pas de sa volonté et que jamais âme ne fut plus aimante, plus généreuse et plus noble? On n'épouse pas les vampires, quelque bonne que soit leur intention, répondit le commodore. Mais tout cela est chimère, extravagance, superstition. Ce qu'il y a de vrai, malheureusement, c'est que Paul s'est frappé de ses folies qu'il a prises au sérieux. Il est effrayé et halluciné. Il croit à son pouvoir fatal. Il a peur de lui-même. Et chaque petit accident qu'il ne me raquait pas autrefois, et dont aujourd'hui il s'imagine être la cause, confirmant lui cette conviction. Mais n'est-ce pas à moi, qui suis sa femme devant Dieu, et qui le serai bientôt devant les hommes, béni par vous, mon cher oncle, de calmer cette imagination surexcitée, de chasser ces vains fantômes, et de rassurer, par ma sécurité apparente et réelle, cette anxiété hagarde, sœur de la bonhomanie, et de sauver, au moyen du bonheur, cette belle âme troublée, cet esprit charmant en péril.
Mais vous avez toujours raison, Miss Ward, dit le commodore. Et moi, que vous appelez sage, je suis qu'un vieux fou. Je crois, oui, que cette vie sorcière, elle m'avait tourné la tête avec toutes ces histoires. Quant au comte Albin Villa, ses cordes et sa babloterie gabalistique me semblent à présent assez ridicules. Sans doute c'était un stratagème imaginé pour faire éconduire Paul et épouser lui-même.
Non, il se peut que le comte Altavilla soit de bonne foi, dit Miss Ward en souriant. Mais tout à l'heure vous étiez encore de son avis sur la jetature.
N'abusez pas de vos avantages, Miss Alicia. D'ailleurs, je ne suis pas encore si bien revenu de mon erreur que je n'y puisse retomber. Le meilleur serait de quitter Naples par le premier départ de bateau à vapeur et de retourner tout tranquillement en Angleterre. Et quand Paul ne verra plus les cornes de bœuf, les massacres de cerfs, les doigts allongés en pointe, les amulettes de corail et tous ces engins diaboliques, son imagination se tranquillisera. Et moi-même, j'oublierai ces sordettes qui ont failli me faire fausser ma parole et commettre une action indigne d'un galant homme. Vous épouserez Paul, puisque c'est convenu. Vous me garderez le parloir et la chambre du rez-de-chaussée dans la maison de Richmond, la tourelle octogone au castel de Lincolnshire, et nous vivrons heureux ensemble. Si votre santé exige un air plus chaud, nous louerons une maison de campagne aux environs de Tours, ou bien encore à Cannes, où Lord Brougham possède une belle propriété et où ses damnables superstitions de jetature sont inconnues, Dieu merci. Et que dites-vous de mon projet, hein, Alicia? Mais vous n'avez pas besoin de mon approbation. Ne suis-je pas la plus obéissante des nièces? Oui, lorsque je fais ce que vous voulez, petit masque, dit en souriant le commodore, qui se leva pour regagner sa chambre.
Alicia resta quelques minutes encore sur la terrasse. Mais, soit que cette scène eût déterminé chez elle quelque excitation fébrile, soit que Paul exerçât réellement sur la jeune fille l'influence que redoutait le commodore, la brise tiède, en passant sur ses épaules, protégée d'une simple gaze, lui causa une impression glaciale. Et le soir, se sentant mal à l'aise, elle pria Vichet d'étendre sur ses pieds froids et blancs comme le marbre une de ces couvertures arlequinées qu'on fabrique à Venise. Cependant, les lucioles scintillaient dans le gazon, les grillons chantaient, et la lune large et jaune montait au ciel dans une brume de chaleur. Chapitre 11. Le lendemain de cette scène, Alicia, dont la nuit n'avait pas été bonne, effleura à peine des lèvres le breuvage que lui offrait Vissé tous les matins et le reposa languissamment sur le guéridon près de son lit. Elle n'éprouvait précisément aucune douleur, mais elle se sentait brisée. C'était plutôt une difficulté de vivre qu'une maladie, et elle eût été embarrassée d'en accuser les symptômes à un médecin. Elle demanda un miroir à Vissé, car une jeune fille s'inquiète plutôt de l'altération que la souffrance peut apporter à sa beauté que de la souffrance elle-même. Elle était d'une blancheur extrême. Seulement deux petites taches semblables à deux feuilles de rose du Bengale tombées sur une coupe de lait nageaient sur sa pâleur. Ses yeux brillaient d'un éclat insolite, allumés par les dernières flammes de la fièvre, mais la cerise de ses lèvres était beaucoup moins vif, et pour y faire parvenir la couleur, elle les mordit de ses petites dents de nacre. Elle se leva, s'enveloppa d'une robe de chambre en cachemire blanc, tourna une écharpe de gaze autour de sa tête, car malgré la chaleur qui faisait crier les cigales, elle était encore un peu frileuse, et se rendit sur la terrasse à l'heure accoutumée, pour ne pas éveiller la sollicitude toujours aux aguets du commodore. Elle toucha du bout de ses lèvres au déjeuner, bien qu'elle n'eût pas faim, mais le moindre indice de malaise n'eût pas manqué d'être attribué à l'influence de Paul par Sir Joshua Ward, et c'est ce qu'Alicia voulait éviter avant toute chose. Puis, sous prétexte que l'éclatante lumière du jour la fatiguait, elle se retira dans sa chambre, non sans avoir réitéré plusieurs fois au commodore, soupçonneux en pareille matière, l'assurance qu'elle se portait à ravir. « À ravir, ouf, j'en doute, » se dit le commodore à lui-même lorsque sa nièce s'en fut allée. Elle avait des tons nacrés près de l'œil, de petites couleurs vives au haut des joues, juste comme sa pauvre mère, qui elle aussi prétendait ne sera jamais mieux portée. Alors que faire? Lui ôter Paul, ce serait la tuer d'une autre manière. Laissons agir la nature. Alicia est si jeune. Oui, mais c'est aux plus jeunes et aux plus belles que la vieille mob en veut. Elle est jalouse comme une femme. Oh. Si je faisais venir un docteur, mais que peut la médecine sur un ange? Pourtant, tous les symptômes fâcheux avaient disparu. Ah, si c'était toi, damné Paul, dont le souffle fit pencher cette fleur divine, je t'étranglerais de mes propres mains. Nancy ne subissait le regard d'aucun jettatore, et elle est morte. Si Alicia mourait, oh non, cela n'est pas possible. Je n'ai rien fait à Dieu pour qu'il me réserve cette affreuse douleur. Quand cela arrivera, il y aura longtemps que je dormirai sous ma pierre, avec le secret to the memory of Sir Joshua Ward, à l'ombre de mon clocher natal. C'est elle qui viendra pleurer et prier sur la pierre grise pour le vieux commodore. Ah, je ne sais pas ce que j'ai, mais je suis mélancolique et funèbre au diable ce matin. » Pour dissiper ses idées noires, le commodore ajouta un peu de rhum de la Jamaïque au thé refroidi dans sa tasse et se fit apporter son hookah, distraction innocente, qu'il ne se permettait guère qu'en l'absence d'Alicia, dont la délicatesse eût pu être offusquée même par cette fumée légère mêlée de parfums. Il avait fait déjà bouillonner l'eau aromatisée du récipient et chasser devant lui quelques nuages bleuâtres, lorsque Vichy parut annonçant le Codatavilla. Sir Joshua, dit le comte après les premières civilités, avez-vous réfléchi à la demande que je vous ai faite l'autre jour? J'y ai réfléchi, reprit le commodore, mais vous le savez, monsieur Paul approuvera ma parole. Oui, sans doute, mais pourtant, il y a des cas où une parole se retire. Par exemple, lorsqu'un homme à qui l'on a donné, pour une raison ou pour une autre, n'est pas tel qu'on le croyait d'abord. Comte, parlez plus clairement. Ben, il m'aurait pu ne charger un rival. Mais d'après la conversation que nous avons eue ensemble, vous devez me comprendre. Si vous rejetiez, monsieur Paul d'Apremont, « m'accepteriez-vous pour gendre ?»« Oh, moi, certainement, mais il n'est pas si sûr que Biswarde s'arrangea de cette substitution. Elle est entêtée de ce Paul. Et c'est un peu ma faute, car moi-même, je favoriserais ce garçon avant toutes ces sottes histoires. Pardon au compte de l'épithète, mais j'ai vraiment la cervelle à l'envers. Voulez-vous que votre nièce meure ?» dit Altavilla d'un ton ému et grave. « Tête et sang, ma nièce, mourir !» s'écria le commodeur en bondissant de son fauteuil et en rejetant le tuyau de maroquin de son cas. Quand on attaquait cette corde chez Sir Joshua Ward, elle vibrait toujours. « Ma nièce est donc dangereusement malade ?»« Non, ne vous alarmez pas si vite, Milord, même Miss Alicia peut vivre. » Et même très longtemps. Ah, le bonheur, vous m'aviez bouleversé. Mais à une condition, continua le comte Altavilla. C'est qu'elle ne voit plus, monsieur Paul d'Apremont. Ah, voilà la gestature qui revient sur l'eau. Mais par malheur, Miss Ward n'y croit pas. Écoutez-moi, dit posément le comte Altavilla. Lorsque j'ai rencontré pour la première fois Miss Alicia au bal chez le prince de Syracuse, et que j'ai conçu pour elle une passion aussi respectueuse qu'ardente, c'est de la santé étincelante, de la joie d'existence, de la fleur de vie qui éclatait dans toute sa personne que je fus d'abord frappé. Sa beauté en devenait lumineuse et nageait comme dans une atmosphère de bien-être. Cette phosphorescence la faisait briller comme une étoile. Elle éteignait anglaise, russe, italienne, et je ne vis plus qu'elle. Et à la distinction britannique, elle joignait la grâce pure et forte des anciennes déesses. Excusez cette mythologie, chez le descendant d'une colonie grecque. C'est vrai qu'elle était superbe. Miss Edwina Hoherty, Lady Eleanor, Lily, Mrs. John Strongford, la princesse Vera Fyodorovna Valentinsky, faillit en avoir la jaunisse de dépit, dit le commodore enchanté. Et maintenant, ne remarquez-vous pas que sa beauté a pris quelque chose de languissant, que ses traits s'atténuent en délicatesse morbide, que les veines de ses mains ne dessinent plus bleu qu'il ne faudrait, que sa voix a des sons d'harmonica, d'une vibration inquiétante et d'un charme douloureux. L'événement, l'élément terrestre s'efface et laisse dominer l'élément angélique. Miss Alicia devient une perfection éthérée. Que, dussiez-vous me trouver matériel, je n'aime pas voir aux filles de ce globe. Ce que disait le comte répondait si bien aux préoccupations secrètes de Sir Joshua Ward qu'il resta quelques minutes silencieux et comme perdu dans une rêverie profonde. Tout cela est vrai, bien que parfois je cherche à me faire illusion. Je ne puis pas en y convenir.
Ce n'est pas fini, dit le comte. La santé de Miss Alicia, avant l'arrivée de M. d'Apremont en Angleterre, avait-elle fait naître des inquiétudes?
Oh, jamais! C'était la plus fraîche et la plus rieuse enfant des trois royaumes.
Alors la présence de M. d'Apremont coïncide, comme vous le voyez, avec les périodes maladives qui altèrent la précieuse santé de Miss Ward. Je ne vous demande pas, à vous, homme du Nord, d'ajouter une loi implicite à une croyance, à un préjugé, à une superstition, si vous voulez, de nos contrées méridionales, mais convenez cependant que ces faits sont étranges et méritent toute votre attention.
Mais Alicia ne peut-elle être malade naturellement, dit le commodore, ébranlé par les raisonnements captieux d'Altavilla, mais qui retenait une sorte de honte anglaise d'adopter la croyance populaire napolitaine.
Non, Miss Ward n'est pas malade. Elle subit une sorte d'empoisonnement par le regard. Et si Monsieur d'Apremont n'est pas jetateur, le moins il est funeste.
Que puis-je faire? Elle aime Paul, se rit de la jetature, et prétend qu'on ne peut donner une pareille raison à un homme d'honneur pour le refuser.
Je n'ai pas le droit de m'occuper de votre nièce. Je ne suis ni son frère, ni son parent, ni son fiancé. Mais si j'obtenais votre aveu, peut-être tenterais-je un effort pour l'arracher à cette influence fatale.
Oh, ne craignez rien, je ne commettrai pas d'extravagance. Quoique jeune, je sais qu'il ne faut pas faire de bruit autour de la réputation d'une jeune fille. Cependant, permettez-moi de me taire sur mon plan. Ayez assez de confiance en ma loyauté pour croire qu'il ne renferme rien que l'honneur le plus délicat ne puisse avouer.
Vous aimez donc bien ma nièce, dit le commodore.
Oui, puisque je l'aime sans espoir. Mais m'accorderez-vous la licence d'agir?
Vous êtes un terrible homme, comte Altaviva.
Oh, eh bien, tâchez de sauver Alicia à votre manière. Je ne le trouverai pas mauvais, même je le trouverai fort bon.
Le comte se leva, salua, regagna sa voiture et dit au cocher de le conduire à l'hôtel de Rome.
Paul, les coudes sur la table, tête dans ses mains, était plongé dans les plus douloureuses réflexions. Il avait vu les deux ou trois gouttelettes rouges sur le mouchoir d'Alicia, et toujours infatué de son idée fixe, il se reprochait son amour meurtrier. Il se blâmait d'accepter le dévouement de cette belle jeune fille, décidée à mourir pour lui, et se demandait par quel sacrifice surhumain il pourrait payer cette sublime abnégation. Paddy, le jockey gnome, interrompit cette méditation en apportant la carte du comte Altavilla.
Le comte Altavilla, oh, que peut-il me vouloir? Fit Paul, excessivement surpris. Faites-le entrer.
Lorsque le Napolitain parut sur le seuil de la porte, M. d'Apremont avait déjà posé sur son étonnement ce masque d'indifférence glaciale qui sert aux gens du monde à cacher leurs impressions. Avec une politesse froide, il désigna un fauteuil au comte, s'assit lui-même et attendit en silence, les yeux fixés sur le visiteur.
« Monsieur !» commença le comte en jouant avec les breloques de sa montre. Ce que j'ai à vous dire est si étrange, si déplacé, si inconvenant que vous auriez le droit de me jeter par la fenêtre. Épargnez-moi cette brutalité, car je suis prêt à vous rendre raison en galant homme.
J'écoute, monsieur, sauf à profiter plus tard de l'offre que vous me faites, si vos discours ne me conviennent pas, répondit Paul sans qu'un muscle de sa figure bougeât. Vous êtes jettatore.
Ah, c'est beau. Une pâleur verte envahit subitement la face de Monsieur d'Apremont. Une auréole rouge cercla ses yeux. Ses sourcils se rapprochèrent, la ride de son front se creusa, et de ses prunelles jaillirent comme des lueurs sulfureuses. Il se souleva à demi, déchirant de ses mains crispées les bras d'acajou du fauteuil. Ce fut si terrible qu'Altavilla, tout brave qu'il était, saisit une des petites branches de corail bifurquées suspendues à la chaîne de sa montre et en dirigea instinctivement les pointes vers son interlocuteur. Par un effort suprême de volonté, M. d'Apremont se rassit et dit « Vous aviez raison, monsieur. Telle est en effet la récompense que mériterait une pareille insulte. Mais j'aurai la patience d'attendre une autre réparation. » Croyez, continua le comte, que je n'ai pas fait à un gentleman cet affront qui ne peut se laver qu'avec du sang, sans les plus graves motifs. J'aime Miss Alicia Ward. Oh, que m'importe. Cela vous importe, en effet, fort peu, car vous êtes aimé, mais moi, non, Felipe Altavilla. Je vous défends de voir Miss Alicia Ward. Oh, je pendant d'en recevoir de vous. Je le sais, répondit le comte napolitain. Aussi, je n'espère pas que vous m'obéissiez. Alors, quel est le motif qui vous fait agir ? Dit Paul. J'ai la conviction que le fascino dont malheureusement vous êtes doué influe d'une manière fatale sur Miss Alicia Ward. C'est là une idée absurde, un préjugé digne du Moyen-Âge, qui doit vous paraître profondément ridicule. Je ne discuterai pas là-dessus avec vous. Vos yeux se portent vers Miss Ward et lui lancent, malgré vous, ce regard funeste qui la fera mourir. Je n'ai aucun autre moyen d'empêcher ce triste résultat que de vous chercher une querelle d'Allemand. Au XVIe siècle, je vous aurais fait tuer par quelqu'un de mes paysans de la montagne. Mais aujourd'hui, ces mœurs ne sont plus de mise. J'ai bien pensé à vous prier de retourner en France. C'était trop naïf. Vous auriez ri de ce rival qui vous a dit de vous en aller et de le laisser seul auprès de votre fiancé sous prétexte de jettature. Pendant que le comte Altavilla parlait, Paul d'Apremont sentait pénétré d'une secrète horreur. Il était donc, lui, chrétien, en proie aux puissances de l'enfer, et le mauvais ange regardait par ses prunelles. Il semait les catastrophes, son amour donnait la mort. Un instant, sa raison tourbillonna dans son cerveau, et la folie battit de ses ailes les parois intérieures de son crâne. Comte, sur l'honneur, pensez-vous ce que vous dites ? S'écria d'Apremont après quelques minutes d'une rêverie que le Napolitain respecta. Oui, sur l'honneur, je le pense. Oh, alors, ce serait donc vrai, dit Paul à mi-voix. Je suis donc un assassin, un démon, un vampire. Je tue cet être céleste. Je désespère ce vieillard. » Et il fut sur le point de promettre au comte de ne pas revoir Alicia. Mais le respect humain et la jalousie qui s'éveillaient dans son cœur retardent ses paroles sur ses lèvres. « Comte, je ne vous cache point que je vais de ce pas chez Miss Ward. Bon, je ne vous prendrai pas au collet pour vous en empêcher. » Vous m'avez tout à l'heure épargné les voies de fait, j'en suis reconnaissant. Mais je serai charmé de vous voir demain à 6 heures dans les ruines de Pompéi, à la salle des thermes, par exemple. On y est fort bien. Quelle arme préférez-vous ? Vous êtes le français, épée, sabre ou pistolet ? Nous nous battrons au couteau et les yeux bandés, séparés par un mouchoir dont nous tiendrons chacun un bout. Il faut égaliser les chances. Je suis jettatore,
Je n'aurai qu'à vous tuer en vous regardant, monsieur le comte. » Boldapremont partit d'un éclat de rire strident, poussa une porte et disparut.